France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Louis Garrel. 19h40, Affaire critique. Lucille Comeau nous parlera de la bande dessinée de Martin Panchaud, La couleur des choses. 19h45, Affaire en cours. Pourquoi craindre la dimension politique du livre Jeunesse? Christian Bruel rappellera à Marie Sormier les enjeux culturels et sociaux de la littérature pour enfants. 19h50, Affaire à suivre en compagnie de la cinéaste Sylvaine Dampierre. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson et Ludovic Ogier à la prise de son. Bonsoir Louis Garrel.
Bonsoir Arnaud.
Votre nouveau film en tant que réalisateur, L'Innocent, sort demain en salle. Vous y jouez également aux côtés d'Anouk Grimbert, Ange Dizdem, Noémie Merlant, quelques autres. On va bien sûr en parler, mais comme chaque soir avec tous nos invités, on va en profiter pour s'arrêter sur quelques moments importants de votre parcours. Rappelez bien sûr que vous êtes un enfant de la balle, petit-fils du comédien Maurice Garrel, fils du réalisateur et comédien par moment Philippe Garrel.
Il n'aime pas ça du tout jouer.
Oui, mais bon, il l'a fait.
C'est le grand-père qui jouait, c'est le grand-père.
Oui, beaucoup. Votre mère, Brigitte Sy, comédienne et cinéaste, il vous est quand même arrivé, enfant, de jouer un film où votre grand-père jouait votre grand-père, votre père, votre père, votre mère, votre mère. Vous êtes rendu compte à quel âge que vous étiez dans une famille un peu particulière?
Assez tôt, quand j'ai demandé l'argent de ce tournage. J'ai dit, j'ai joué à 6 ans, je veux mon argent. Ils avaient tout dépensé. Je leur ai dit, mais attendez. Il m'a dit, bon, on n'a pas assez de sous, on a dépensé pour te nourrir. J'ai compris que j'étais dans une famille particulière.
Un peu plus tard, on passe quelques années, c'est au conservatoire du 10e arrondissement où vous commencez le théâtre. Quand on voit depuis des années votre aisance à l'écran qui se bonifie, à mon avis, à chaque film, on n'imagine pas que les premiers pas furent douloureux et vous racontez pourtant que ça a quand même été le cas, qu'être sur scène, c'était pas si évident.
Oui, je crois que non, j'adore le théâtre, mais c'est vrai que d'être sur scène, c'est j'ai eu quelques moments comme ça dans des représentations où j'ai senti que j'avais une espèce de plaisir, mais la plupart du temps, c'était quand même un truc très très angoissant, quoi, terrorisant. J'adore prendre des cours, j'ai adoré être au conservatoire d'arrondissement national, discuter avec Muriel Mayette, Gérard de Sartre, de théâtre, assister aux répétitions. Putain, quand il faut jouer, je tombe, quoi.
Bon, le conservatoire, en effet, National Supérieur d'Art Dramatique, avec, ça permet de rencontrer d'abord le professeur Gérard de Sartre, d'y rencontrer des camarades, Vincent Macaigne, Arthur Aigoual, Sylvain Creusevaux, Damien Mongin, avec cela sera la compagnie D'ores et Déjà, avec qui vous jouerez notamment Bâle de Brecht à l'Odéon. Vous avez déjà à ce moment-là commencé à tourner, notamment avec Christophe Honoré. On va y revenir, mais pour rester un instant au théâtre, vous êtes assez rare. C'est avec Luc Bondy que vous avez le plus souvent joué. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dans lesquelles vous avez joué. Mais qu'est-ce qui s'est...
Pas mal quand même. J'en ai fait combien? J'ai fait Viol, Le Retour de Pinter.
Oui.
Et Les Fausses Confidences. Ça fait que trois.
Ça fait trois. Mais c'est quasiment la moitié de votre parcours théâtral.
Oui, donc voilà. Avec un peu lâche, il a fui.
Est-ce que le plaisir a fini par venir?
Les Fausses Confidences, il y avait des soirs. Alors, il y avait des soirs. J'adorais cette pièce. Je la trouvais extraordinaire. D'ailleurs, même pour L'Innocent, j'y ai repensé à certains endroits de l'écriture du scénario, parce que l'apprentissage, en tout cas ce qu'on apprend chez Marivaux, sur l'idée que le sentiment ne naît pas comme ça de lui-même, mais que des stratagèmes, des manipulations peuvent faire naître un vrai sentiment. Ça, c'est... Donc oui, il y a eu des soirs avec Isabelle Huppert, Bernard Verlet, Bulogier, où tout d'un coup, j'étais avec des gens tellement élégants, intelligents, pas du tout bêtes, ou dans une espèce de rivalité d'acteurs qui peut parfois être vraiment... néfaste ou toxique, j'avais des moments où j'avais l'impression que, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de la grâce qui se passait sur scène et que j'avais mon mot à dire.
Mais oui, sinon... On vous sentait bien dans cette pièce-là, dans le plaisir?
Oui.
Enfin, vu de la salle, hein.
Non, on a joué deux fois, donc deux fois 40, et puis à un moment donné où j'avais des paniques quand même. Je regardais la salle, ils étaient 600 aux Têtes de l'Odéon, c'était le rêve que j'avais fait quand j'avais 13-14 ans, et que j'étais allé voir, je me souviens, un spectacle de Brigitte Jacques Vajman avec Recep Mitrovica, un Don Juan. Je m'étais dit, mon rêve c'est de jouer à l'Odéon. Et là, tout d'un coup, j'y étais. Non, d'ailleurs, c'était très bizarre, parce que le soir de la première, il y avait Olivier qui était le régisseur général, et moi j'entrais par la salle. La salle, c'était une salle hostile. Les salles de général, c'est hostile. Ouais. On sait qu'il y a tout Paris, des acteurs, des metteurs en scène, des gens, des critiques de théâtre. C'est violent pour jouer. Et moi, je rentrais. Et tout d'un coup, je sens mon cœur taper. Je dis à Olivier, juste avant qu'il ouvre les portes du théâtre, pas des coulisses du théâtre, pour que je rentre par la salle qui était déjà allumée. Et je dis, Olivier, touche mon cœur, ça tape. Il me dit, mais non, Louis, c'est le trac, c'est normal. Je dis, touche. Et là, il touche mon cœur et il me dit, ouh la vache, vas-y, c'est à toi. Et donc, je me souviens encore de ce moment-là. Voilà, je suis rentré en tremblant avec Yves Jacques, avec qui on avait ce duo extraordinaire de Marivaux, là, Dubois Dorante. Il y a eu des moments, quand même, où c'était bien.
Vous n'auriez pas envie de mettre en scène pour le théâtre?
Si, si. Je dois te dire que j'étais très ami avec Luc Bondy. Je crois que les plus beaux moments que j'ai eu avec lui, c'est quand j'assistais à ses répétitions d'opéra. J'allais à Milan le voir quand c'était un Mozart Idéomène, qui était bizarre, derrière il y avait une pieuvre géante sur scène, où il avait fait Marguerite, Yvonne, princesse de Bourgogne à l'Opéra Garnier.
Extraordinaire.
Incroyable, avec Peduzzi qui avait fait le décor, il y avait un livret, enfin il y avait une musique originale. J'étais là, je me disais, mais cette espèce d'énorme paquebot, pour le moindre geste, il faut demander à 15 personnes de reculer, le chœur, les chanteurs, les décorateurs, tout ça, c'était des trucs. Donc je m'étais dit, si un jour j'arrive à monter un opéra, je serais content. J'en ai vu un de Mario Martone, qui était très beau, de 20 minutes, comme ça, à l'Opéra Bastille, et j'étais jaloux. Bon. Là, j'étais jaloux, parce que c'était bien.
Bon, ça va peut-être venir, alors. Souhaitons-le. Mais pour en venir au cinéma, Louis Garrel, comme comédien et comme cinéaste, on va écouter tout d'abord une voix qui vous est chère, qui nous est chère, celle de Jean-Pierre Léo, un jeune Jean-Pierre Léo, interviewé sur le tournage du film Le Départ de Jerzy Skolimowski, c'était en 1967.
J'aime beaucoup chez Skolimowski le fait de... C'est quelque chose qui caractérise les jeunes réalisateurs. C'est s'il se passe un accident à l'intérieur du tournage, de profiter de cet accident et de le mettre en scène. Il y a eu un accident de voiture, on en a profité. Bon, ça a été une improvisation totale, c'est formidable aussi. Ce que j'ai aimé, alors, c'était ce qui était complètement l'inverse, c'était des scènes de jeu, parce que Skolimowski est un réalisateur tout à fait particulier pour ça. Il est acteur lui-même, il avait le rôle principal de ses premiers films, et il mime complètement, pour les acteurs, l'action qu'on doit faire et à la fois les sentiments qu'on doit exprimer sur le visage. Et comme directeur d'acteur, il est formidable, vraiment. Et ça, j'aime bien les scènes de jeu. En ce moment, on est aussi en train de tourner une scène là, dans une chambre avec une jeune fille. C'est grosso modo la première fois que ce garçon sûrement doit faire l'amour. Et Skolimowski nous met dans une direction, place sa caméra, nous donne des indications de jeu. Et à la fin, il laisse la caméra tournée et il nous laisse, nous, acteurs, pendant un instant, comme ça, en suspens, et entamer des mouvements qui vont raccorder avec le plan suivant. Une espèce d'improvisation, comme ça. Et puis le fait d'être filmé aussi, qui est très, 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 très gênant, crée une gêne, et c'est très, très bien. Enfin, oui, c'est très, très bien.
Acteur, réalisateur, on va y venir dans un instant, parce que c'est ce que vous êtes aussi, mais Jean-Pierre Léo, en quoi c'est un modèle pour vous ?
C'est un film génial, ça. Ouais. Le départ de ce... Il y a cette chanson Rues et ruelles, chambre des vides, portes et portes, des mouches mortes, des bouteilles vides, vides toujours. Non, c'est joli parce que l'actrice dont il parle, elle joue dans Masculin Féminin de Godard, et c'est marrant parce que c'est un espèce de pont, le film. Ouais. Parfois, je pense au départ de Skolimowski, en fait, c'est des scènes de Masculin Féminin, c'est drôle, ils sont tous les deux en noir et blanc. Non. Jean-Pierre Léo, c'est quand j'ai découvert à 14 ans ces films, et je pense que c'est ça doit être les 400 coups, puis la trilogie des Douanelles, et je me disais, tiens, voilà, dans des films tout à fait structurés, un acteur qui a l'air d'être complètement libre et d'être autonome comme une, je sais pas, il a comme une narration dans la narration, on peut se raconter plein de choses sur lui, surtout il est complètement imprévisible. Mais j'ai commencé à vouloir lui ressembler, il y avait probablement un truc anachronique où je me réfugiais dans cette espèce de fantasme des années 60 et 70 de la Nouvelle Vague, parce que c'est aussi ça qu'on aime des films de la Nouvelle Vague, c'est parce qu'on voit bien que l'époque dans laquelle les films sont tournés était réjouissante, il y avait quelque chose, donc j'imitais et en même temps je trouvais qu'il avait des... Je me disais, je ne vois pas d'où il vient. C'est comme s'il était né de lui-même, Jean-Pierre Léo. Peut-être à un moment donné, je me suis dit, tiens, il doit être cousin avec Michel Simon, parce qu'ils ont la même sorte d'expressivité. Il n'y a pas de structure classique dans leur jeu. Alors que j'aime bien, moi, les acteurs qui ont une structure classique. Quand je vois Robert De Niro, je vois, il est génial, mais c'est une structure classique de jeu. Tandis que Jean-Pierre Léo, c'est imprévisible. J'ai découvert par la suite ce texte très beau de Truffaut qui s'appelle « L'acteur magique ». en disant qu'il avait quelque chose de magique, enfin il a quelque chose de magique, Jean-Pierre, Léo. Et du coup, c'est à travers lui en fait que je me suis guidé dans les films, et c'est comme ça que je suis passé du départ, probablement un des premiers que j'ai vu, puis ensuite Masculin-Féminin, puis ensuite après tous les Truffaut avec lui, et en fait après le dernier Tango à Paris de Bertolucci, je passais grâce à un acteur dans une espèce de, je passais les portes avec lui des films quoi, c'était. Et donc je le trouvais original, tout simplement, très très original, toujours ce, je sais pas, un événement, une scène complètement plate. Il était capable de vous donner des mouvements burlesques et un rythme, ouais, un rythme expressif comme ça, très très expressif.
Il l'est toujours, aussi génial, hein, Jean-Pierre Léo. Acteur réalisateur, puisque demain sort votre nouveau long métrage, L'Innocent, c'est davantage avec le cinéaste, donc du coup je vais parler ce soir, mais en fait il y a près de 15 ans que vous réalisez, parce que le premier court-métrage Mes copains, ça date de 2008, si je fais bien mes maths, ça fait ça.
Et toute la troupe est déjà, avec Sylvain Creusevaux et Damien Mongin.
Absolument, alors au départ, c'est ça, vous vouliez filmer vos camarades de théâtre au cinéma? Ça part de là?
Non, au départ le rêve moi que j'avais, c'est vrai, quand j'avais 14-15 ans, c'était vraiment de faire comme Molière et comme Nouchkine, c'est-à-dire une troupe de gens avec qui l'on vit et avec qui on travaille. Et puis ensuite, il y a eu l'expérience de Bâle de Brecht où déjà je commençais à être un peu le vilain petit canard de la bande. je me distinguais peut-être par, je sais pas, truc un peu narcissique, ou je sais, j'arrivais pas à faire groupe avec eux. Et eux ne s'intéressant pas du tout au cinéma, ne continuant à pas vraiment s'y intéresser, même aujourd'hui, Sylvain Creusevaux, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il peut le faire même comme acteur de temps en temps, mais c'est... j'ai dit, bon, je vais prendre une, je savais, c'était complètement amateur, j'ai dit, on va prendre une caméra. J'avais rencontré l'assistant de Caroline Champetier, Léo Instinct, et j'ai dit, voilà, en 3-4 jours, je gribouille une espèce d'histoire comme ça, et j'essaye de les faire jouer, les intéresser au cinéma, et en même temps avec l'idée déjà que ce petit bout de film, puisqu'on était quand même très amis, nous servira à, avec une espèce de un diapositive presque familial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui se parlent plus, donc c'est bien de l'avoir. Au moins, on est réunis dans ce petit truc. Et voilà, c'était l'idée de départ. C'était de les initier à un truc qui les intéressait pas.
Alors, dès le deuxième court-métrage, Petit ailleurs, il y a une signature, me semble-t-il, qui s'affirme. Le troisième, La règle de Troyes, est la préfiguration du premier long, Les deux amis, avec le même triangle amoureux, interprété par Golshité Farahani, Vincent Macaigne et vous-même. Ce premier long, vous le co-signez avec Christophe Honoré, et on va voir que vous avez depuis toujours eu un co-scénariste. Être à deux pour écrire, ça permet quoi, Louis Garrel?
Bah, ça permet qu'il y en ait un qui tienne le stylo, l'autre qui parle, parce qu'on peut pas faire les deux choses en même temps. Et que moi, je suis beaucoup à discuter, et alors, de temps en temps, j'écris, mais j'aime bien travailler avec des gens qui ont affaire avec la littérature, enfin, qui ont affaire avec l'écrit, où ils peuvent pas dire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire à l'oral, tandis que moi, je suis capable de tout dire, je crois, à l'oral. Il n'y a pas des choses que je rate et que je ne peux dire qu'à l'écrit, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est assez pudique pour ne pouvoir se dévoiler qu'à l'écrit. Du coup, ça fait un rapport d'hystérie et d'inhibition, ou je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Peut-être moi je suis un grand, je sais pas, hystérique, tandis que les écrivains sont des gens un peu autistes comme ça, et cette espèce de mélange me plaît bien. Et autrement, quand je regarde les films italiens, ou enfin beaucoup des films italiens que j'aime, ils sont toujours 4-5 scénaristes à la manœuvre, et c'est vrai que quand on est soit... Il y avait un très beau livre d'ailleurs de Claude Chabrol et François Guérif, qui était le directeur des éditions Rivage Noir, ça s'appelle Comment faire un film, et je me souviens, bon voilà, il y a des petites anecdotes rigolotes ou des conseils que Chabrol donne, et à un moment donné, il dit une chose assez essentielle, qu'il y a deux types de metteurs en scène, qu'il y a les poètes et puis les narrateurs, et qu'il faut savoir où est-ce qu'on se trouve. Moi, je me trouve pas du tout dans la catégorie des poètes. Donc je suis un narrateur au sens où j'essaie de raconter une histoire et de tenir en haleine les gens. Et ça, pour savoir raconter une histoire, il faut s'y mettre à plusieurs, parce qu'il faut éprouver l'histoire, des fois la critiquer, des fois la sabrer, des fois la surenchérir, encore une fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'histoire, elle passe l'épreuve de 3-4 personnes, et qu'on se dise, bon voilà, on a une bonne histoire maintenant, et on peut essayer de la faire interpréter par des acteurs, et puis aller dans le vaste monde pour la mettre en image.
Alors on parlera de Tanguy Viel, avec qui vous co-signez L'Innocent, mais les deux longs suivants, le premier, L'Homme fidèle et la croisade, vous les avez co-écrits avec Jean-Claude Carrière. Alors le 21 décembre dernier, la veille de la sortie du film, je recevais Laetitia Castel dans cette émission. Écoutez-la.
La force de Jean-Claude Carrière, c'est aussi de pouvoir dire des choses profondes, violentes, mais toujours avec douceur. Mais il faut que ça paraisse réel. Et la force de Louis Garrel, c'est d'amener beaucoup de quelque chose de vif, d'électrique presque. Et c'est sa manière à lui de tourner, hein, sur le plateau. Il met toute l'équipe comme ça en tension. Mais c'est une tension, c'est pas une tension négative, c'est une tension d'énergie. C'est un plein d'énergie comme ça. Et quand même, avec le texte de Jean-Claude Carrière, l'écriture de Jean-Claude, et cette énergie de Louis, c'est les deux, cet assemblage des deux, ça fait quelque chose d'étincelant comme ça. Et par rapport aux improvisations, oui, il peut nous arriver d'improviser, mais il fallait presque improviser dans le texte de Jean-Claude et le rendre comme ça, comme si ça sortait de nos bouches. Et en plus, vous savez, quand vous avez des enfants, c'est encore autre chose. Et il fallait que les enfants aient cette pensée-là, parce que leur faire dire des choses d'adultes, ça peut absolument ne pas fonctionner
très,
du
très
tout.
Mal marcher, mais là, ça marche très bien.
Parce que
nous avons des enfants responsables dans ce film.
Pour ça, Louis Garrel est très fort quand même. Il arrive très bien à diriger les enfants, les acteurs.
Vous reconnaissez dans ces propos ?
Oui, oui, c'est possible. Enfin, je me reconnais l'énergie. Quand on fait les deux, du coup, on est un peu survolté. Enfin, quand on fait la mise en scène et l'acteur, on est forcément un peu à yeux et à dia. Et c'est vrai que c'est... Pour l'équipe avec qui je travaille, c'est aussi une manière de les mobiliser que de me voir comme un zébulon qui part à droite et à gauche. Non, là où je me reconnais, et je pense que c'est un peu le cas aussi avec l'innocence, c'est-à-dire que l'improvisation, c'est pas trop mon truc. Parce que je trouve que l'acteur est trop attentif à essayer de dire des phrases qui auraient un sens. Puis c'est des phrases qui quand même dénoncent l'improvisation, je sais pas comment dire. Donc j'aime beaucoup la structure, d'être très 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 structuré, et qu'à l'intérieur de ça, plus l'acteur... bizarrement est en prison, emprisonné dans une structure établie, plus en fait il sera libre s'il arrive à la dépasser, et là plus je pourrais voir émerger sa vraie personne et pas l'acteur en train de d'essayer d'être bon dramaturge, quoi.
Mais comme vous en parlez, jouer dans vos films, c'est une constante chez vous. Là encore, qu'est-ce que ça permet?
Non, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vécu de l'intérieur. C'est comme ça que je les conçois, c'est-à-dire quand je suis avec les scénaristes, je leur joue les scènes, ils ont déjà à disposition l'acteur, les scénaristes, ils peuvent voir. Puis ensuite, quand je suis en repérage, je peux déjà mettre dans les scènes, le chef opérateur peut déjà prendre des photos, on peut déjà voir les photos avec l'acteur, et donc je leur joue tout et j'essaye de, organiquement, qu'ils commencent à sentir un peu l'atmosphère que je veux ou le rythme de scène que je veux. Et alors ensuite, c'est le grand plaisir, mon grand plaisir, c'est que comme je fais des films aussi pour voir des acteurs performer, je suis très proche d'eux quand je joue. C'est-à-dire que je suis vraiment collé à eux et je peux être là, par exemple, dans Noémie Merlant, il y avait des scènes, même Anouk et Rojdi, évidemment, mais Noémie Merlant, je trouve qu'elle, tout d'un coup, elle explose d'une chose qu'on n'a jamais vu faire. Je l'avais en face de moi. Donc j'avais et le metteur en scène et l'acteur étaient doublement, double plaisir, quoi. J'avais une super grande actrice qui était en train de naître à un endroit où on l'avait jamais vu venir. Donc j'avais les deux. Donc
ça permet de modifier des choses aussi.
Modifier non, mais ce qui est sûr, c'est que la grande difficulté pour les gens qui font des films parfois, c'est de s'exprimer, de faire comprendre aux acteurs quelque chose. Et il y en a, moi je le sais, quand je suis qu'acteur, il y a beaucoup de metteurs en scène qui savent pas par où en venir, ou ils essaient de faire des phrases trop compliquées, mais on m'a donné des espèces d'images nulles qui me bloquaient. Et c'est vrai que moi maintenant c'est mon inquiétude, et je sais que moins j'en dis, mieux les acteurs sont, si je me suis fait comprendre par une phrase claire. Et quand je joue en phase 2, très vite ils comprennent les règles du jeu par un exemple vivant, c'est-à-dire ils voient exactement où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas, les petites phrases que j'improvise, le texte que je modifie ou pas, et du coup ils ont tout de suite la règle du jeu inscrite sur mon visage, quoi. Donc c'est ça qui donne le de temps en temps de la liberté, je crois.
Alors il y a ces questions pratiques sur lesquelles on reviendra, mais il y a des questions, on pourrait dire, existentielles. Pourquoi faire du cinéma? Alors dans votre cas, on pourrait dire que c'est l'accomplissement d'un rêve, parce que c'est une chose dont vous avez souvent parlé. Au classique, un film réalisé par, vous préférez un rêve réalisé par?
Est-ce que c'est un rêve? Non, ça c'était Jean-Claude une fois, je me souviens même avec Buñuel, il avait ces questions-là, quand on écrivait un scénario avec Jean-Claude, je disais, ah, tiens, on va raconter que le personnage rêve. Il hurlait, il disait, ah non, même Louis, quand il faisait ça, je disais, non, parce que le cinéma c'est déjà un rêve en soi, non, on va pas rajouter un rêve dans le rêve, ça serait complètement débile. Non, c'est pas un rêve, c'est, je dirais, presque le même plaisir que j'ai des enfants, avant de s'endormir, je leur raconte des histoires et j'essaye de les improviser. Ma fille, j'ai toujours improvisé les histoires. Je peux lui lire des livres, mais... Et le moment dans ses yeux où je vois qu'elle commence à y croire. C'est-à-dire, je vois qu'elle se dit... Alors qu'elle sait que tout est faux, que tout est inventé, mais elle a un espèce de plaisir, comme ça, à tout d'un coup se dire « Ah, j'y crois à ce monde-là. » Et c'est la même chose, en fait. Quand je fais un film, je me dis... le moment où les spectateurs, si les spectateurs se mettent à y croire et qu'ils redeviennent un espèce de, et que cette espèce de monde imaginaire qui est aussi important que la réalité, là, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail et surtout le plaisir vient pour moi de d'avoir ces gens-là devant moi qui y croient, quoi. C'est tout. C'est une histoire de foi. C'est, alors c'est peut-être parce que j'ai pas été élevé dans la religion ou j'ai pas été baptisé et que j'ai pas eu ces moments du dimanche à la messe qui, je pense, sont très, très importants pour les gens. D'avoir un moment donné où la vie devient sacrée par une histoire extraordinaire qui est la vie du Christ qui est narrativement est géniale. Il y a des histoires de trahison, d'illumination, de rédemption, enfin tout ce que vous connaissez du Christ. Je l'ai pas eu. Alors c'est vrai que le moment sacré pour moi, c'est tout d'un coup où aller voir une pièce de théâtre, c'est une heure et demie où tout d'un coup on met la vie en représentation. Pareil pour un film, on met la vie en représentation et dans cette espèce d'univers de faux, d'artificiel, tac, on se met à croire à l'imagination.
Alors pour prolonger quand même sur la question du rêve, on va écouter là le cinéaste Jean Renoir. Invité de l'émission formidable Bureau des rêves perdus, c'était sur la RTF en 54.
Le rêve, je ne sais pas ce que c'est, et je n'ai aucune définition du rêve parce qu'il m'est extrêmement difficile de saisir la différence entre le rêve et la réalité. Je ne sais pas très bien quand je rêve, je ne sais pas très bien quand c'est vrai. Ça m'amène beaucoup d'ennuis. Par exemple, ça me fait mentir. Je mens très souvent parce que je repens à des gens, à des amis, ou peut-être dans mon métier, dans les affaires, en conformant mes réponses à une réalité qui n'est pas la réalité, qui est un rêve. Alors je suis donc parfaitement sincère, je ne mens pas par rapport à cette fausse réalité, mais par rapport à la vraie réalité, la réalité des autres, je mens. Endormi, je sais moins. Endormi, j'ai des cauchemars. J'ai le cauchemar habituel que vous connaissez, on tombe, et on tombe dans un vide sans fin, et puis on se réveille brusquement en ayant extrêmement peur. J'ai des rêves comme ça, mais je n'ai pas une très grande connaissance de mes rêves endormis. Je connais mieux mes rêves éveillés.
Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait écouter Renoir pendant des heures ?
Mais je vais vous le dire, je crois que je sais.
Ah, merci.
C'est que... Il y a des cinéastes, des artistes qui sont obsessionnels avec leur art, qui fabriquent des formes extraordinaires, qui ont l'air de tout d'un coup de réinventer une forme antique, je sais pas, de la peinture, tout ça, et qui parlent que de leur art et de la représentation de la vie. Et ben Renoir, en fait, on sent bien que le fait de vivre, mais pour vivre, dans la nature, de s'intéresser aux choses humaines, est aussi important pour lui que de faire du cinéma. Et il fait coexister dans ses films l'amour de la vie et l'amour du cinéma ensemble. Et c'est la chose la plus... C'est pour ça qu'on dit le patron, enfin, les cailloux du cinéma, on dit ça. Je crois que c'est pour cette idée que quand on voit un film de Renoir, Truffaut, là, j'ai écouté avec Jacques Chancel, super intéressant. C'est vrai que souvent, la règle du jeu, quand tout d'un coup, j'y crois plus, au fait de faire des trucs, enfin, je vois trop de films, je me dis, mais pourquoi on voit cette vie virtuelle sur un grand écran plutôt que de vivre? Et je vois la règle du jeu, à chaque fois, je m'y réfère. Et je me disais, mais c'est bizarre, ce film, il a tellement de vie en lui, et en fait, Truffaut a trouvé la bonne expression, la règle du jeu, ça vous lave. Et c'est vrai. Comme une espèce d'eau, comme ça, d'eau de source. Ça vous remet dans le vrai bain des choses qui est qu'il y a l'existence et le cinéma, et que ces deux choses sont aussi intéressantes. Il y avait une bonne définition d'un rédacteur en chef d'un Beaux-Arts magazine. Je passe du coq à l'âne, pardon. L'art sert à rendre la vie plus intéressante que l'art.
Ça, c'est Monory qui a dit ça, le peintre.
Monory, merci.
L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.
C'est super beau comme définition. Eh ben, il y a un truc qui Renoir et simple, comme ça. C'est son cinéma, il jaillit comme ça, mais sans jamais, à un moment donné, s'obséder sur juste le cinéma.
Ben merci Louis Garrel pour cette explication, pourquoi oui, on écoute
Renoir.
Hein. Ah oui,
non,
mais
après,
moi,
ça
me va.
Non, mais il y a une chose très belle de Jean Renoir, qu'avait Jean-Claude Carrière aussi, ce sont des grandes intelligences, de grandes éruditions, qui ne sont jamais des éruditions destinées à un public de spécialistes. Ils ont gardé presque une sorte de bon sens paysan, au sens de la simplicité des choses et de la... Tout le monde peut comprendre Jean Renoir quand il s'exprime. C'est magnifique quand il raconte ses films face caméra, il y a tout dossier. Et Carrière avait la même chose. Alors, il était lui-même fils de vigneron, presque.
Ouais.
Il avait cette érudition totale. Toujours des phrases très très simples. C'était de l'intelligence bonhomme comme ça, je sais pas. Ouais. Qui était...
C'est pour ça qu'on les aime tant, ces gens-là. Et puis il y a effectivement cette adresse de Jean Renoir aux jeunes artistes. Parlez de ce que vous connaissez, parlez de vous. Alors si on reproche souvent au cinéma français d'auteur d'être nombriliste, on pourrait dire que vous assumez pleinement la part autobiographique de vos films, Louis Garrel. C'est une des conditions pour que le transfert ait lieu. Ça renvoie à une lecture que vous avez faite, jeune homme, de La Confession d'un enfant du siècle de Musset, qui a été une expérience... forte, je crois, pour vous.
La Confession d'un enfant du siècle, ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, La Confession d'un enfant du siècle. Mais oui, il y avait le journal intime de Musset qui était fiévreux, comme ça, on a l'impression qu'il avait une grande intensité à vivre et qu'il ressentait tout sur une prise de 1000 volts, alors que moi j'étais branché sur du 24. Et donc, c'était pour ça que j'aimais ça. Non, il peut tout à fait y avoir des films qui sont pas autobiographiques, qui me plaisent, moi,
bien sûr.
Spectateur. Enfin, celui-là, en tout cas, L'Innocent, oui, j'ai... Mais ce qui me plaisait là, c'était de conjuguer deux choses qui étaient des films emprunté à des formes très populaires au sens où très connues, donc le polar ou la comédie romantique, qui ont des codes très précis. Alors j'ai essayé de les réinventer, d'être un peu surprenant, mais de le conjuguer avec une histoire autobiographique. J'aimais bien cette espèce de l'anecdote intime, enfin, ou la partie intime, dans une forme qui est très très très, qui est spectaculaire, qui fait partie du cinéma des origines, comme ça, les voyous, l'aventure, la vie intense, le crime, le risque, surtout l'amour du risque, mais avec toujours, comme garde-fou, l'histoire que je connaissais, ce dont je parlais, et que c'était une chose assez importante quand même, le rapport mère-fils. Mais Jean Renoir, quand il dit cette chose-là, parler de ce que vous connaissez, c'est encore plus précis, parce que dans une de ses interviews, c'était « Quel conseil donneriez-vous à un jeune metteur en scène ?» Il disait « Parlez de ce que vous connaissez, au sens où si un Chinois... » Par exemple, il disait, Marcel Pagnol, c'est le cinéaste qui est le plus aimé en Chine. Mais ça se comprend, parce que c'est une culture marseillaise, donc c'est très très précis. Et forcément, je comprends, si je me mets en miroir, quand je vois un film chinois, j'ai envie qu'on me parle d'une culture que je connais pas du tout, et de même s'il y a une histoire à l'intérieur universelle, que ça se passe dans un cadre avec des cultures, des coutumes que je connais pas et que je vais découvrir aussi grâce au film. Et le risque, d'ailleurs, je disais toujours ça bêtement à mon équipe, c'était de faire un polar et de vouloir imiter le genre américain et de faire genre américain et qu'on reste pas là. Je disais, on fait aujourd'hui Michael Mann du Poitou-Charentes. Ça, c'était mon mantra tout le long du film. Je dis, il faut qu'on le pas.
Non,
il faut
c'est bien trouvé.
Il faut qu'il soit local, le film.
Ouais, mais c'est ça. C'est bien ça que j'ai vu. Alors, la part autobiographique de L'Innocent, dont vous y jouez le fils de Sylvie, interprété par Anouk Grimbert, qui est comédienne, qui donne des ateliers de théâtre en milieu carcéral, qui tombe amoureuse d'un détenu et qui va l'épouser. Ça, c'est une chose que votre mère, Brigitte, si a vécue. Je l'aime tant, votre mère. Elle le sait, je la dis souvent. Elle a d'ailleurs fait un très beau film, Les Mains Libres, en 2010, sur cette même histoire. D'ailleurs, vous avez gardé le prénom de Michel pour... Pour le mari,
ouais, j'ai gardé.
Pour le beau-père, on va dire ça comme ça. Ici, c'est donc Roche Dizem. Mais de ce point de départ biographique, en effet, ça ouvre sur une fiction trépidante.
Ouais.
Quelle est la part de Tanguy Viel, donc qui co-signe le scénario, alors dont on sait le goût et pour le cinéma et pour le genre du policier. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en le cherchant lui?
Je voyais bien que ses romans étaient inspirés par des images de cinéma, par des films, et pas par les littératures. Et ça, j'aimais bien ça chez lui. Et je trouvais que son style de dialogue était sophistiqué, que je voulais pas du tout faire un film naturaliste. Donc je lui ai dit, il n'avait jamais fait de scénario. Je lui ai dit, écoute, faisons cette histoire, essayons de fabriquer un truc ensemble. Et lui, il me disait, mais j'ai jamais fait ça. J'ai dit, mais c'est bien que tu l'aies jamais fait, conserve ton style. Je t'en prie, parce que plus les acteurs, ils auront des dialogues structurés de cinéma, artificiels, plus ils pourront être eux-mêmes. Et ensuite, ensemble, on a fait cette espèce de première architecture qui était pas la bonne. Et puis on a reconsolidé la façade de la cathédrale, on a cassé le vitrail sur la gauche. Et après, au bout d'un moment donné où on se fatiguait, on a appelé Naïla Guiguet, qui est une jeune scénariste qui a déjà travaillé avec pas mal de très bons cinéastes. Et elle est venue dynamiter à l'intérieur, ce qui a pu déstabiliser Tanguy, qui lui est habitué à fabriquer des livres. Donc au bout d'un moment donné, quand on a une version du scénario, il avait l'impression, voilà, j'ai bien fait mon travail. Et j'ai dit, mais non, un scénario, c'est à la fois tout et rien dans un film. C'est fou. Donc on peut le faire du bunto, prendre la fin, déchirer 10 pages et en remplacer, les remplacer même la veille du tournage, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Il faut quand même que c'est surtout ce film-là, c'était pas un film dit. Je dis ça parce que j'étais un peu fâché, j'étais dans une salle et quelqu'un m'a dit, oui, il y a un côté nouvelle vague. J'ai dit, ah non, me faites pas le coup de la nouvelle vague, il y a rien de la nouvelle vague dedans. Ouais. Et en fait, peut-être que si, il y a rien de l'idée que les gens se font d'un film de la nouvelle vague qui serait en gros un film en noir et blanc dans une chambre de bonne avec quelqu'un qui boit du vin dans des bols. Ça, c'est l'image un peu de l'opinion commune. Mais par contre, en vrai, oui, il y a quelque chose de la nouvelle vague au sens du polar de la série B ou l'admiration de ça. Mais bon, enfin, on est loin, parce que là,
on en est loin.
Je disais, dans les polars classiques, la charge héroïque est attenante, enfin, et sur les épaules des hommes, tandis que là, c'est plutôt sur les épaules des femmes. Les femmes sont quand même beaucoup plus héroïques et valeureuses que les hommes dans mon film.
Ça, c'est...
Je me suis égaré.
Pas du tout.
Du coup, Tanguy Viel, c'était quand même bien d'avoir un écrivain qui n'avait pas vécu ma vie pour aussi avoir le passage où on fictionne et on fabrique, on essaie de fabriquer des images merveilleuses. C'est pour ça que le film se passe dans un aquarium. J'ai rien à voir avec les aquariums dans ma vie intime.
Je ne sais pas.
J'avais des poissons combattants quand j'étais plus petit. Tiens, je m'en souviens que maintenant. Ce soir.
Ouais. Voilà. Sans transition. Plaisir, Nerva Léonard, Nuit Magique de Catherine Lara, Une autre histoire de Gérard Blanc, ou encore Imaski de Jalan Emili qu'on entend en ce moment. Vous n'avez pas fait semblant pour la bande originale de votre film, Louis Garrel. Qu'est-ce qu'elles apportent au film, ces chansons?
Plusieurs choses, mais hier il y avait une projection et je me suis dit, en fait, quand on rentre dans une salle de cinéma, on vient tous de milieux différents, il y a des signes culturels qu'un film véhicule, et la variété, en tout cas, Herbert Léonard au début, c'est comme s'il décapsulait tous les barrages culturels, parce qu'il y a quelque chose de la variété qui est irrésistible. Il y a un moment où c'est des mots simples qui ont l'air de raconter nos histoires, et surtout qui ont conservé cette espèce de lyrisme sentimental qui appartient à l'adolescence dans des corps de gens un peu plus âgés, ou je sais pas, enfin, les chanteurs font beaucoup ça, mais la variété particulièrement. Et donc je m'en sers comme pour dire, pour laissez-vous aller au film. Laissez-vous aller, en fait on ne peut rien y faire. Herbert Léonard, tu ne peux rien y faire. Pour le plaisir, tu es obligé à un moment donné d'avoir du plaisir.
Ouais, c'est très bien.
Et surtout, ce qui me plaît, c'est ce premier degré sentimental que la variété française adore comme ça travailler. Je voulais que le film, sur la question des histoires d'amour entre les différents personnages, si je pouvais m'amuser narrativement avec le burlesque, avec la comédie de boulevard presque, le suspense ou le polar comique. Je voulais que les personnages, ça soit traité de manière tragique et amoureusement. Et du coup, ce premier degré-là, je me suis dit, la variété de temps en temps m'y aidera.
Alors, comme je vois que le temps file, je voudrais pas que cet entretien se termine sans dire que, bon, ça fait longtemps qu'on sait que Roche disait, mais Anouk Grimbert sont des très grands interprètes, vous concernant, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous bonifiez de film en film. Alors, concernant Noémie Merlan, vous l'avez évoqué, elle avait été vraiment révélée au plus grand public dans Portrait de la jeune fille en feu, mais dans le film d'Audiard, aussi les Olympiades, on voyait aussi une palette différente, mais alors là, le potentiel comique de Noémie Merlan est stupéfiant. Vous vous en doutiez un tout petit peu ou pas? Tout à l'heure, vous avez l'air de dire que vous l'avez quasiment découvert.
Non, mais je veux dire, j'aimais tellement ce personnage de Clémence. Je l'aimais vraiment tellement. Et c'était d'ailleurs un des objectifs avec Tanguy. C'est que les personnages, à un moment donné, indépendamment des acteurs qu'elle allait les incarner, ils existent. Et qu'on puisse les voir, même en fermant les yeux, dire, ah, voilà, je vois Sylvie, je vois Michel, je vois Clémence. Et Clémence, elle avait un charme extraordinaire. Et je crois que Noémie est assez tombée d'accord avec moi que Clémence avait un charme, et je pense que c'est la volonté de faire apparaître Clémence qui l'a poussée à faire des trucs aussi poussés par moi. Je lui ai dit, n'aie pas peur, je lui ai même dit des fois, Jacqueline Maillan, Noémie. Jacqueline Maillan, c'est-à-dire joue fort, pas naturel. La vérité, elle viendra d'ailleurs, ce ne sera pas dans le parler vrai, comme on dit, ou je ne sais pas quoi. Et donc tout d'un coup, elle est montée dans les aigus. Elle m'a dit, tu sais, souvent on me dit, arrête avec tes aigus. Je disais le contraire, monte avec tes aigus. Tu es plus valeureuse que moi dans le film. Tu es plus drôle, plus contrasté. Tu peux vraiment y aller. Et elle a découvert devant moi cette espèce de capacité à faire rire tout en restant très très humaine. C'est-à-dire, elle n'est pas devenue monstrueuse parce qu'il y a. Elle est devenue. Elle a fait apparaître Clémence. Et c'est vrai qu'elle est vraiment géniale. Je suis très très fier d'avoir porté cette responsabilité et que. Là, j'entends les gens quoi, qui sortent, qui disent « Mais Noémie Merlan, incroyablement drôle !» Et elle-même ne le savait pas.
Pouvez l'être, fier de vous, Louis Garrel, fier de tout ce film, « L'innocent », qui sort demain dans les salles. Il faut y aller tôt, il faut aller dès les premières séances, dès qu'on peut y aller. Merci infiniment,
merci
Louis Garrel, d'avoir été notre invité.
France Culture, Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
C'est à présent l'heure d'Affaires critiques. Enfin, on vous retrouve. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, une bande dessinée surprenante, m'avez-vous dit, La couleur des choses de Martin Panchaud.
Oui, j'aime beaucoup cet objet, je pense que j'y reviendrai, tant il est singulier et attachant. Pas facile en revanche à décrire, mais bon, je me lance.
C'est votre boulot.
C'est un roman graphique, dont l'action est presque systématiquement vue de haut, sans perspective, et les personnages sont réduits à de petits ronds bicolores, un peu comme des chapeaux vus du dessus. Ils circulent dans des pages hétérogènes, certaines sont constituées de cases, d'autres proposent des zooms sur des objets ou des lieux. Certaines choses sortent de la case pour être dessinées de manière hyper réaliste, comme des gravures, des détails anatomiques, des pièces de monnaie, des verres de whisky ou de coca. D'autres encore ressemblent à des schémas de livres d'école. Celle, par exemple, qui détaille la vie d'une baleine bleue. Beaucoup de flèches, de pointillés, beaucoup de choses en couleur. Martin Panchaud est un graphiste suisse. L'album a paru d'abord en langue allemande. Il a avant commis plusieurs travaux pour des magazines dans le même style. J'ai vu notamment des dessins hyper précis de vaisseaux de Star Wars qui m'ont réjoui. On sent une filiation assez nette avec la manière de Chris Ware. Et d'ailleurs, l'action se situe dans un lieu assez proche de ce que le maître américain dessine. Une banlieue, en l'occurrence anglaise, des parcs où les jeunes se retrouvent après l'école, des intérieurs modestes, etc. C'est un objet compliqué, donc ça peut effrayé au départ, je vous décris la première scène. Un jeune garçon doit livrer un gâteau à une amie de sa mère. Il se fait arrêter en route par une bande de jeunes qui le harcèlent et finissent par l'embarquer dans une combine louche. Les personnages sont donc tous des petits ronds de la même dimension. Alors certains sont verts, d'autres marrons, d'autres roses. Le gâteau, lui aussi, évidemment, est rond. Il faut se repérer dans le système de fléchage. Pas simple.
Mais alors, qu'est-ce qui fait, avec cette complexité, qu'on s'accroche finalement à la lecture?
Et bien déjà, la très grande intelligence de cet album, c'est de compenser la complexité et l'éparpillement graphique en proposant un récit hyper référencé dans lequel tout amateur de cinéma, de série, se retrouvera. On se situe entre le teen movie et le thriller. C'est l'histoire de Simon Hope, donc un jeune garçon anglais. Il vit avec des parents qui ne s'entendent pas. Il se fait victimiser par ses camarades. Et un jour, il va voir une voyante qui lui donne des conseils pour gagner aux courses. Bingo, il gagne d'un coup des millions de livres, il court chez lui pour demander l'autorisation à ses parents de récupérer cet argent qui va tout changer. mais c'est pour y faire une terrible découverte. Des barlouges, des motards menaçant un détective privé, beaucoup de verres de whisky. La couleur des choses nous balade en terre connue, mais sans négliger pour autant la fiction au profit du dessin. C'est assez drôle, notamment cette histoire de baleine bleue qui a l'air absurde, mais qui trouve tout son sens dans un final excellent. Martin Panchaud réussit à faire vivre ses personnages, pions colorés dont les attributs physiques existent pourtant. Par exemple, Simon Hope, le héros, il est gros, c'est dit en permanence par ses camarades. Plus tard, on apprend qu'il ressemble quand même beaucoup à un autre personnage. Évidemment, tout ça, on ne le voit pas, puisque ce sont des ronds. Hein. Simon est un rond marron clair et marron foncé. Il est de la même taille que les autres, mais on le sait quand même, on le croit. C'est un travail considérable de créer cet effet de réel et d'empathie avec ces moyens graphiques-là, et ça passe par un amour du détail visible à chaque page, sorte de prolifération qui fait penser aux jeux vidéo. Dans la maison de Simon, vue du dessus, on voit sa chambre en désordre, avec une couette fusée, des stylos partout, des magazines sous le lit, les détails mécaniques des motos des trois méchants, ou la reproduction au minuscule bouton près d'un enregistreur de poche. L'amour du récit et de ses lecteurs est dans le détail.
Ben, vous avez remarqué que Marie Sorbier et moi sommes un peu interloqués par cette
ben
description.
Oui. Mais oui, on a très mais alors là, je découvrir. Vous non, mais je comprends, c'est vrai que c'est très bizarre, mais c'est vraiment super bien.
Bon, on va regarder ça de oui, près, j'espère que vous l'avez au bureau. Hein. La couleur des choses de Martin Panchaud apparaît aux éditions, excellentes éditions. Ouais. Ça et là. Tâchons de nous remettre de nos émotions. Affaire en cours, avec vous Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous revenez sur la dimension politique de la littérature jeunesse.
Oui Arnaud, car tous les livres destinés aux jeunes lecteurs proposent des points de vue et tous sont imprégnés, via leurs auteurs, d'affects, d'idéologie, d'esthétique, qui les transforment de facto en objets culturels politiques. Pourtant, ils sont rarement considérés comme tels, alors même qu'ils contredisent ou interrogent l'ordre des choses. Je suis allée demander à Christian Bruel de nous éclairer sur cette notion politique du livre pour enfants. Christian Bruel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur et éditeur de littérature pour la jeunesse, formateur aussi auprès des adultes pour sensibiliser aux enjeux culturels et sociaux du livre jeunesse. Aux trois fonctions principales dévolues à la littérature jeunesse, à savoir éduquer, divertir, informer, vous en ajoutez volontiers trois autres, dévoiler, révolter, projeter. Est-ce que c'est cette capacité à bousculer, à débattre qui vous intéresse dans cette littérature-là ?
Ce qui m'intéresse dans cette littérature, c'est d'abord que ce sont des vrais livres. D'autre part, je fais partie de ceux qui s'interrogent beaucoup sur la montée de l'extrême droite. Et il y a une légende qui continue d'être répandue dans nos milieux, à savoir que les livres pour la jeunesse devraient être neutres et bienveillants. Comme est neutre et laïque et bienveillante l'éducation nationale, cette neutralité me sort par les yeux. La raison pour laquelle les idées d'extrême droite se développent, alors qu'elle n'a pas de support jeunesse autorisé, me pose question et m'invite à interroger cette neutralité supposée de ce champ culturel.
Pourquoi dites-vous que le livre jeunesse est toujours politique ?
Comme disait Machiavel, tout est politique. Mais, par exemple, quand on observe les décalages qu'il y a entre le monde tel qu'on le vit et le monde tel qu'il est représenté dans les livres pour la jeunesse, ces décalages sont terribles. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de femmes en littérature de jeunesse. Il n'y a que des mères. Il n'y a plus de papas violents. Il n'y a que des papas poules. Il n'y a pratiquement pas de célibataires, alors que les célibataires sont très nombreux dans notre société. Donc on voit que c'est un monde qui a été filtré, c'est un monde qui formate les enfants et qui les conduit, par exemple, à ne pas voir que la plupart des couples, quand je dis la plupart, la totalité des couples qu'on voit en littérature de jeunesse sont des couples qui soit ont des enfants, soit vont en avoir, soit en ont eu. Mais aucun ne se pose la question de savoir si c'est légitime, nécessaire, utile, urgent d'avoir des enfants. Que ce soit des couples humains ou des couples animaux. Et ça, c'est une manière de formater les jeunes âmes.
Mais ce formatage vient des auteurs, des éditeurs. Comment ça se fait que les livres jeunesse ne reflètent pas la société dans laquelle on vit ?
Il n'y a pas de coupable dans cette affaire. Ou alors, ils sont tellement nombreux. Il y a un vieux mot qu'il faut remettre absolument à l'ordre du jour, c'est le mot d'idéologie. Dans votre introduction, vous avez indiqué qu'il y a un point de vue, que tous les livres de jeunesse, quels qu'ils soient, même les plus niais, même les plus inoffensifs en apparence, sont tous détenteurs d'un point de vue, tous défendent un point de vue. De façon intense, ou de façon plus subtile, ou de façon inconsciente, il y a besoin de travailler là-dessus. C'est pas les enfants qui doivent faire ce travail, c'est les adultes qui doivent faire un travail d'aider les enfants à s'émanciper par rapport aux lectures. Je fais partie de ceux qui considèrent, par exemple, que c'est très important que les adultes expliquent à des enfants pourquoi il y a des livres qui ne leur plaisent pas.
Donc accompagner la lecture des enfants.
Accompagner la lecture, mais l'accompagner de façon non pas neutre et bienveillante, mais d'une façon aiguisée, aiguisante.
Et critique ?
Et critique.
Pourquoi, selon vous, la juxtaposition des mots jeunesse et politique hérisse tant les oreilles ?
Parce qu'on a tout de suite une cohorte de fantasmes qui se mettent en place, de manipulation, parce qu'elles ont envie d'être hérissées. Elles ont envie d'être hérissées, elles ne supportent pas l'idée qu'il puisse y avoir un point de vue critique sur le monde et que l'offre de lecture puisse être le vecteur de ce point de vue critique. Et les adultes ne veulent pas être complices de ça, y compris des adultes qui sont marqués à gauche, etc., et qui ont un rapport à l'enfance qui est généralement un peu anesthésiant.
Est-ce qu'on enlève la capacité de penser aux enfants ? Est-ce qu'on leur soustrait leur capacité politique ?
En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas abordé, ou pratiquement pas abordé, pour la politique au sens institutionnel du terme, au sens le plus noble. C'est quelque chose qui devrait transpirer dans cette littérature. Et pour plein de raisons historiques assez longues à développer, cet affleurement du politique est dénié, et contourné, et modifié, et tout ce que vous voulez. Prenons l'exemple de la sexualité. Pendant très longtemps, la sexualité était absente de l'offre de lecture pour la jeunesse. Puis elle est apparue sous la forme de la sexualité des adultes, à condition que ce soit des hommes et des femmes qui soient mariés et qu'ils se reproduisent. Donc la sexualité est faite pour la reproduction. Mais une chose qui est très étonnante, c'est que la sexualité des enfants, par exemple, n'est absolument pas abordée. Je ne parle pas de la sexualité avec les adultes, je parle de la sexualité des enfants entre eux. C'est-à-dire les moins de 15 ans entre eux. Et si on faisait un sondage rapide, je suis sûr que la plupart des adultes pensent que c'est interdit. C'est la pesanteur sociale qui fait que les enfants ne sont pas censés avoir une vie sensuelle et plus affinité quand ils sont dans une proximité d'âge suffisante et quand ils sont dans le consentement et sans contrainte.
Dans la littérature jeunesse, il y a le texte, mais il y a aussi souvent l'image. L'illustration tient aussi un rôle politique, selon vous ?
Absolument. Moi, je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle l'iconotexte, c'est-à-dire le mélange, l'articulation, les injonctions conjointes du texte et des images. Et donc les images ne sont pas des illustrations, ce sont des images. C'est-à-dire de plus en plus, les livres de jeunesse, en tout cas ceux qui m'intéressent le plus, sont des livres qui sont faits par soit le même artiste qui ou la même artiste qui travaille texte et images, soit par des couples ou parfois des trios, quoi, des quatuors. J'ai fait des livres dans ma carrière d'éditeur avec une dizaine de personnes sur le même bouquin, d'une part. Et d'autre part, ces images, qui ne sont plus des illustrations, sont absolument nécessaires à la conduite du récit, quand il y a récit, ou à l'argument du livre. Et un autre aspect qui, moi, me touche et m'intéresse, c'est qu'il ne faut pas oublier que les images, elles sont liées au sens, mais elles sont liées à l'affect. Et qu'il y a une manière d'être touché par les images qui ne se résout pas dans ce qu'elles nous apprennent du monde. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Et ce sensible-là, il ne remplace pas l'accès au sens, mais il est trop souvent oublié.
Je renvoie nos auditrices et auditeurs pour en savoir plus à votre essai « L'aventure politique du livre jeunesse » qui va paraître dans quelques jours aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup Christian Bruel.
Et merci à vous Marie Sorbier. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France, à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la cinéaste Sylvaine Dampierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présentez votre film « Paroles de nègres » au Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes, c'est en Guyane, FIFAC, c'est son petit nom. Ce long métrage documentaire nous entraîne à Marie-Galante, petite île au large de la Guadeloupe, où le travail de la canne à sucre reste le travail essentiel, malgré les difficultés de cette industrie, malgré aussi et surtout la pénibilité de ce travail. Et les ouvriers d'aujourd'hui que vous filmez, qu'on voit à l'image, prêtent leur voix aux esclaves de 1842 qui sont venus témoigner contre leur maître. Alors pourquoi, Sylvaine Dampierre, avoir choisi de faire porter cette parole venue du passé par ces hommes d'aujourd'hui ?
C'est une façon de le restituer un héritage direct, puisque le procès dont il est question dans le film, enfin, qui est à l'origine de cette archive, relate un fait divers qui s'est passé à quelques encablures de l'usine, sur une ancienne habitation sucrière de Marie-Galante. Et l'esclave victime de son maître était né dans une habitation qui s'appelait Grand-An, c'est-à-dire qui porte le même nom que cette usine. Donc, comme souvent en Guadeloupe, l'héritage est direct entre l'habitation esclavagiste et la propriété qui s'est développée et l'usine qui s'est développée ensuite. En tout cas, la topologie marque, la toponymie, pardon, marque la trace de cette histoire. Donc, l'idée, c'était de retourner à la source de cette histoire et de proposer aux ouvriers de la canne, aux ouvriers du sucre, de se réapproprier cette archive, cette part de leur mémoire. Ce qu'ils ont fait, je crois, en toute conscience et de façon tout à fait, engagée et volontaire, puisque pour eux, cette histoire était celle de leurs parents, comme ils disent.
Oui, parce que la canne à sucre, c'est un élément, on va dire, totémique. C'est à la fois c'est la source du travail, mais c'est aussi le souvenir de l'exploitation esclavagiste. Donc, filmer la canne à sucre, c'est aussi convoquer la mémoire collective de cette île.
Oui, en tout cas, c'est l'interroger, puisqu'en effet, cette plante était à l'origine de la damnation des ancêtres, puisque c'était vraiment le fondement du système esclavagiste. Mais elle est aujourd'hui, en tout cas pour ces ouvriers de Marie-Galante qui sont également planteurs, elle est l'instrument de leur accomplissement et de leur dignité. Donc, il s'agit de la même plante et quasiment du même travail, mais évidemment pas du même statut. Donc, c'est une façon aussi de s'interroger directement sur cet héritage.
Alors, votre film, Sylvain Dampierre a déjà remporté deux prix, l'un prix de la critique internationale au festival Doc Leipzig et le prix du meilleur documentaire de long métrage au Trinidad et Tobago Film Festival, donc un territoire lointain. Leipzig est plus proche, Trinidad et Tobago. Il est présenté maintenant au FIFAC. Le FIFAC aura lieu du 11 au 15 octobre, ça commence aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Pensez-vous que cette mémoire collective qu'on évoquait à l'instant, elle trouve aussi des échos en Guyane, que le film va donc y être perçu fortement aussi?
Je vais le savoir bientôt, mais bon, pour avoir eu ce matin une discussion avec des collégiens qui ont vu le film, en tout cas, elle a suscité vraiment leur intérêt. J'ai été vraiment contente d'entendre leurs questions nombreuses et précises. Ce substrat d'histoire coloniale et postcoloniale, il est bien sûr complètement présent et partagé entre tous ces territoires. Il se trouve que l'histoire est semblable et en même temps un peu différente en Guyane, mais on est quand même dans le même paysage historique et humain, et les traces de la colonisation et de sa violence sont présentes également ici. Bon, le FIFAC, par exemple, se tient dans un très bel endroit, mais qui est donc un ancien bagne. Mmh. Alors, on ne parle pas exactement rigoureusement de la même époque, mais forcément, le lien se fait et se ressent. Voilà, on est dans cet endroit qui est devenu un endroit culturel très vivant, mais qui était donc un terrible endroit d'enfermement et au bord du fleuve, et on en ressent encore toutes les vibrations. Donc, je pense que cette histoire de l'oppression coloniale et de sa rémanence, j'allais dire, dans les sociétés d'aujourd'hui des Outre-mer, elle est commune à tous ces territoires. Oui, donc je pense qu'en effet, le film va sans doute aussi résonner pour ça ici.
Alors, votre film s'intitule, je l'ai dit, Parole de nègre. Ce mot, évidemment, c'est un mot qui fait réagir, qu'on remplace aujourd'hui par d'autres mots. Quel effet souhaitiez-vous en l'utilisant?
Un effet de vérité et de réalité historique, c'est-à-dire que c'est strictement le mot par lequel étaient désignés les esclaves à cette époque. On les désignait parfois comme noirs, mais enfin le nom le plus couramment usité, c'était celui de nègre. Et donc il y a aussi une postérité du mot, bien sûr, il est discutable dans son actualisation et dans ses usages, mais pas dans son origine. Donc moi, j'ai jamais considéré que le fait d'effacer j'ai considéré que le fait d'effacer les mots pouvait participer à effacer une partie de la mémoire. Et en l'occurrence, ce mot de nègre, il est revendiqué par les gens de Marie-Galante et les ouvriers auxquels je m'adresse. Et quand je leur ai annoncé que je pensais à ce titre-là, ils l'ont vraiment validé. C'est un mot qu'ils peuvent aussi se prêter à eux-mêmes. C'est un mot qui, aux Antilles, peut avoir plusieurs acceptions, qui peut s'employer, y compris dans l'intimité, dans l'amitié, mais dont chacun connaît l'histoire. Et c'est ça qui est important. Donc, comme je reviens aux sources de cette histoire, je pense qu'il était logique de désigner ces paroles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des paroles de nègres. Mais dans le film, je crois que les ouvriers, eux aussi, se considèrent comme des nègres, j'allais dire au sens noble du terme. Et je tiens beaucoup à cette majuscule et à cette noblesse.
Et vous faites bien. Alors si cette histoire est bien connue à Marie-Galante et dans quelques endroits comme celui-ci, mais elle est beaucoup moins connue cette histoire en métropole, on aimerait bien pouvoir savoir que ce film sera diffusé plus largement à la télévision. Oui. Est-ce qu'il y a des choses prévues?
Alors, prévu, non, mais j'y travaille, j'aimerais bien aussi, parce qu'en effet, j'ai aussi fait ce film pour ça, oui. Pour cet effet miroir, et mettre aussi, la France métropolitaine face au miroir de ses outre-mer, ça, et de son histoire, enfin, de l'histoire qui la constitue. Je pense qu'on peut pas penser la France d'aujourd'hui sans revenir sur l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. On peut pas penser le monde d'aujourd'hui sans revenir sur cette histoire non plus. Donc, effectivement, c'est aussi et largement pour ça que j'ai fait ce film. Donc, c'est un petit peu long, un peu complexe, mais j'espère bien y arriver. Donc, je ne renonce pas, je m'y emploie. J'espère que ça va se produire bientôt.
Ben, nous aussi, nous l'espérons. Nous relayons ce message. Hein, à bon entendeur, salut. Il faut diffuser votre film Parole de Nègre, Sylvaine Dampierre, qui va être en tout cas déjà projeté demain, mercredi 12 à 20h30 dans le cadre du FIFAC qui se tient jusqu'au 15 octobre à Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Merci à vous. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcastée sur le site de France Culture et l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.